Les mille et un miroirs de Ludmila Dabo.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est une amoureuse de Paris, une parigote parisienne qui, là où elle pose ses escarpins, pense théâtre. Et ce n'est pas une question d'escarpins, c'est une question de peau et de plateau. Ludmila Dabo a tous les métiers de la scène en elle. Comédienne, metteuse en scène, chanteuse, danseuse, avec elle il faut suivre le mouvement. Formée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, artiste fétiche de David Lescaut, primée pour Une femme se déplace, saluée pour Portrait de Ludmila en Nina Simone, à l'affiche du Théâtre de la Tempête à Paris, pour Anaïs Nin au miroir d'Annie de Sarthe, le mouvement de la vie veut qu'on rencontre aujourd'hui cette battante, militante, engagée, mais vraiment très engagée, notamment contre la fatigue, voir son spectacle My Body is a Cage. Avec, dans les coulisses, en sol majeur, une autre petite question. Y a-t-il chez Ludmila une double culture, Bassa et Wolof? Réponse en pointillé, Did you get enough?
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.
Avec le roi de la pop sur le pick-up dans sol majeur, je dois arrêter de me trémousser pour vous accueillir. Bonjour Ludmila Dabo.
Bonjour Yasmine.
Et vous posez d'abord cette question très dangereuse. Comment ça va?
Écoutez, en ce moment, ça va plutôt bien. J'essaye au maximum et c'est encore un travail à faire de prendre soin de moi et de me reposer.
Alors ça, c'est un private joke en fait, cette question comment ça va. Il y aura l'explication tout à l'heure avec votre spectacle My Body is a Cage. Alors, je ne sais pas si c'est très sérieux de vous demander pourquoi le roi de la pop.
Il a quand même un certain nombre de tubes à son actif, des tubes qui ont été entêtants et qui nous ont accompagnés dans notre enfance pour les personnes de ma génération. Alors,
De la mienne aussi.
Voilà, je pense que ça transgresse les âges et ça nous prend tous. Je crois qu'il y a quelque chose dans sa musique et dans le fait qu'il était plus ou moins un virtuose popesque qui est fascinant. C'est quand même un artiste qui était pluridisciplinaire, qui savait tout faire, qui composait, qui chorégraphiait. Et ce morceau, c'était vraiment sa renaissance après les Jackson 5. Et puis, c'est vraiment l'époque du funk. Lui s'empare de tout ça et en fait quelque chose de très singulier, je trouve. Et ce morceau, mais on n'a pas envie de ne pas bouger quand on l'entend, quand même.
Vous êtes prête au crossover ? Il était une fois Anaïs Nin au miroir, spectacle créé cette année en Avignon hein, d'ailleurs, et à l'affiche en ce moment au Théâtre de la Tempête à Paris, dans lequel vous jouez, Ludmila. Mmh. Alors seulement une petite question, qui est Anaïs Nin ? Alors comme le dit l'autrice de ce spectacle, Agnès de Sarthe, c'est une jeune fille née dans les années 20 dites folles, mmh, qui épouse la modernité et qui va nous laisser des pages et des pages de son journal. Écoutons sa voix à Anaïs Nin. On est en 1970. Dans cette archive de Radio-Canada, elle raconte un petit peu son enfance à New York et l'école qu'elle n'a pas aimée.
J'ai quitté l'école avant l'âge légal, enfin, parce qu'il faut aller à l'école en Amérique jusqu'à l'âge de 16 ans. À 14 ans, je l'ai quitté. Je me cachais de la police. Enfin, j'étais le premier, peut-être, drop-out, comme nous disons aujourd'hui.
Vous aviez déjà alors un certain esprit de rébellion contre...
Oui, très bien caché, mais il était là. Mm-hmm. Et il explique d'ailleurs, je crois plus tard, ma protection de tous les rebelles. Parce que je semble choisir ceux qui sont en rébellion, comme Miller, qui avait sa façon, sa révolution à lui. Comme le docteur Hank plus tard, qui était rebelle contre le dogme de Freud. Artaud, qui était le rebelle contre le surréaliste. J'avais un penchant pour les rebelles, peut-être parce que moi, je ne faisais pas mes propres révolutions.
A comme acte 1, scène 1.
Alors, est-ce que c'est important pour vous, la comédienne, d'entendre la voix d'Anaïs Nin, Ludmila Dabo?
Moi, j'entends toujours quelque chose d'une actrice chez Anaïs Nin, ah oui, quand j'entends sa voix. Je trouve qu'elle a à la fois quelque chose de profondément sincère, je crois, et en même temps un désir de s'amuser avec une forme de réel, comme si elle pouvait avoir quelque chose d'un fantasme dans sa propre vie. C'est comme si, en l'entendant, avec cette voix qui est un peu évanescente, qui est un peu lointaine, un peu susurrée, il y avait quelque chose d'un fantasme ou d'un imaginaire qui pouvait se construire comme une légende qu'elle-même se construit à elle-même.
Ça cache un grondement, presque.
Tout à fait. Tout à fait. Et nous, c'est une part de son histoire, d'ailleurs, qu'on ne traverse pas forcément de cette manière-là. Mais c'est quelqu'un qui cache une part de souffrance à l'intérieur de sa propre histoire. Ses journaux en sont le point de jonction, puisque au cœur de chacun de ses récits se creuse la question d'écrire, la question d'être légitime à écrire, et en même temps, une liberté qui est dépendante de la place des hommes et de la place notamment d'Henry Miller dans sa vie. Du fait que les écrivains sont éminemment à son époque masculins. Et puis la dernière chose, c'est aussi que Anaïs Nin est morte d'un cancer. Donc c'est une femme qui avait quelque chose qui concrètement se nécrosait de l'intérieur, mais c'est aussi une personnalité fracturée. Mmh. Et je crois que c'est ce qui jonche aussi sa manière d'écrire.
Alors dans l'adaptation théâtrale d'Agnès de Sarthe, qui a été faite à partir des nouvelles d'Anaïs Nin et à partir de ses journaux,
oui,
donc c'est mise en scène par Élise Vigier, combien de personnages sur le plateau et surtout quel est votre personnage à vous, Ludmila ?
Alors nous sommes tous à la fois nous-mêmes et à la fois un peu d'Anaïs Nin. Donc nous avons la metteuse en scène du spectacle, Élise Vigier, qui est au plateau avec nous. Il y a Nicolas Giré-Famin qui joue une incroyable Anaïs Nin et parfois une personnalité un peu hybride de Nicolas qui pourrait être un songe aussi ou un rêve à l'intérieur de ce récit. Il y a Makita Samba qui joue une incroyable Anaïs Nin à un moment avec un vrai travestissement qui apparaît, tout en restant vraiment Makita Samba à l'intérieur de ça, comme si chacun d'entre nous était possédé en réalité par l'esprit féminin de cette femme. Il y a Louisa Kim, qui est une danseuse et qui est une extension d'un rapport à la danse qu'avait Anaïs Nin, mais qui en même temps est complètement à distance de ça. Il y a une véritable Anaïs Nin qui est comme son spectre et qui est la réminiscence de son esprit et de son corps au plateau en la personne de Dea Liane. Et puis on a aussi Nantené Traoré qui nous accompagne au plateau. On est bien plus nombreux en fait que je ne l'ai dit, je crois. Si, on est plus de 6.
Et alors Ludmila Dabo dans
tout ça. Et Ludmila Dabo dans tout ça est envahie par le fantôme d'Anaïs Nin qui prend possession de sa bouche pour parler. L'idée de ce spectacle, c'est qu'on est en train de préparer une création dont la première doit avoir lieu. Et donc, on invite le public à rentrer dans cette ultime répétition où on continue à questionner la place d'Anaïs Nin dans notre invention. On répète des morceaux de cabaret, parce que c'est une forme de cabaret autour d'Anaïs Nin. Et moi, je suis une comédienne qui essaye de trouver ma place et mon rapport à cette figure. Je suis une actrice qui est possédée par Anaïs Nin et en même temps possédée par ses propres questionnements.
Je pense enfin avoir trouvé la forme pour mes nouvelles. Cela doit être fragmentaire.
Je le savais.
Je peux vous parler un instant?
Je savais que ça allait arriver. Ma mère m'a dit, tu prends bien tes vitamines. Et j'ai dit, oui maman, je prends bien mes vitamines, mais c'était pas vrai. Et on n'avait pas la pharmacie à côté de chez moi. Et j'ai eu la flemme d'aller jusqu'à la pharmacie de la place, alors. C'est normal. Ça recommence.
Oh, mais oui, voilà, vous avez raison, c'est ça. Tout recommence.
Vous n'existez pas. Je ne vous écoute pas, vous êtes une apparition.
Oui, je suis une apparition.
Vous n'existez pas.
Et j'ai quelque chose d'important à vous dire.
Je ne discute pas avec les fantômes.
Pourriez-vous nous situer rapidement ce moment de théâtre d'Anaïs Nin au miroir qu'on vient d'écouter? C'est juste un teaser pour En sol majeur.
Oui, tout à fait. On est vraiment au tout début de la pièce. Anaïs Nin est apparue tout d'abord à la femme de ménage mythique qui travaille dans un théâtre et qui est presque l'âme en dehors des artistes de la maison. Et tout d'un coup, c'est comme si elle appelait à elle tous les acteurs qui vont venir habiter le plateau. Et donc, on commence par une scène un peu de spectacle pur, de danse, à l'intérieur de laquelle on a une forme de Shiva qui se développe. Et on cherche à répéter. Et voilà que le fantôme s'active et vient échanger avec moi et veut prendre possession de moi pour pouvoir exister encore un peu plus, reprendre le cours de sa vie à l'intérieur des acteurs.
C'est un peu une sorte de work in progress, on dirait. En tout cas, le principe dramaturgique d'Anaïs Nin au miroir, c'est que chaque acteur incarne en miroir, justement, un des visages d'Anaïs Nin. On a aussi une temporalité qui est travaillée. Il y a le passé, il y a le présent, et il y a des zones de sa géographie à elle. Il y a Cuba, il y a l'Europe. Il y a cette matière humaine, en fait, qu'elle a livrée à travers ses journaux, puisqu'elle a écrit tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Est-ce que cette matière humaine, Ludmila, nous dit quelque chose de notre aujourd'hui?
Oui, complètement, puisque il y a l'idée vraiment de se mettre en rébellion contre un monde dans lequel un certain nombre d'explosions sociales, politiques viennent heurter l'humanité. Et donc elle cherche comment être une artiste comme un mouvement de révolte face à ce monde qui est en déliquescence.
Alors, je crois savoir que vous interprétez sur scène magistralement un des poèmes érotiques d'Anaïs Nin, mais on va faire sobre. On va faire sobre et vous écoutez au moment où vous avez un livre devant vous.
À chaque fois que je mettais l'accent sur ma vie intérieure, on me disait que l'art était ma seule représentation, que je méprisais l'action. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'intériorité et action sont absolument liées. Lorsqu'on ne peut plus agir ou que le monde extérieur ne change pas, il faut simplement se réfugier en soi-même. Élevée dans un foyer brisé, déraciné et pauvre, dans un pays dont je ne parlais pas la langue, j'ai appris à trouver mes racines en moi-même. Je suis devenue une femme aux racines transportables. En 1939, alors que la guerre allait éclater, des amis sont venus me voir effondrés en m'annonçant « C'est la guerre !» Comment peux-tu continuer à travailler? J'ai répondu, eh bien c'est justement mon travail qui va m'aider à défier la catastrophe.
Merci Ludmila Dabo pour cet extrait d'Anaïs Nin au miroir. Alors d'après ce que vous nous dites, d'après ce que je comprends, c'est que vous incarnez à plusieurs acteurs plusieurs visages d'Anaïs Nin. Quelle dimension vous incarnez en particulier de cette femme?
Je suis au carrefour d'une innocence à retrouver ou à perdre. Et
vous avez les yeux de l'agneau qui vient de naître en disant ça.
C'est vrai. Et en même temps, Élise essaye de me confronter à la question de se dire quels artistes, si nous sommes des artistes, parce que c'est toujours un grand point d'interrogation, est-ce que les acteurs sont des artistes? On n'est pas tous d'accord avec cette...
Oui, c'est juste un instrument au service d'eux.
Exactement. Donc, la question se pose de la pensée de notre place sur un plateau de théâtre et par quel prisme elle passe. Et pour moi, le prisme de mon existence à travers les mots d'Anaïs Nin se passe à l'endroit de l'émancipation et de la liberté et de l'éclosion.
Pour s'interroger donc sur nos vies et sur la place qu'on souhaite y prendre, Anaïs Nin au miroir, donc c'est au Théâtre de la Tempête à Paris jusqu'au 11 décembre avant une tournée en France. Ça récure la mauvaise humeur. Hein. De bon matin, on peut rencontrer le train d'une arlésienne qu'on aura toute la journée, parce que je vois que tout le monde révise ses classiques. Au passage, ce Bizet vous enchante, Ludmila. Pourquoi Bizet ? Et l'arlésienne ?
Bizet, l'arlésienne, la farandole. C'est l'apothéose pour moi. C'est les instruments qui prennent corps tous ensemble. Et je crois que c'est ma première expérience... classique musical, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée dans le temps et qui ne m'a jamais... Je pense que j'étais au CE1 ou au CPCE1.
Ah, on a tous chanté « De bon matin,
j'ai rencontré le train
». Ludmila Dabo, femme orchestre, hein, donc oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête quand elle ne chante pas, quand elle ne danse pas, quand elle ne joue pas, quand elle ne met pas en scène ?
Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Ce n'est pas un geste prémédité. Ce n'est pas un geste d'ailleurs, mais une absence de geste. Un geste que tu ne fais pas. Des gestes que tu évites de faire.
C'est comme chambre intérieure.
Un petit bout de chef-d'œuvre, prix Jean Vigo 1974, Un homme qui dort, c'est une adaptation au cinéma du roman éponyme de Georges Perec avec la voix de Ludmila Mikhaël. Qu'est-ce qui vous bouleverse, Ludmila, dans Cet homme qui dort ?
Il y a un endroit très intime et très personnel sur la question de avons-nous le droit de dire stop ? Avons-nous le droit de nous arrêter ? Avons-nous le droit parfois de nous retirer pour écouter une voix intérieure qui voudrait pouvoir être bercé par autre chose, qui voudrait ne pas avoir envie de se lever de son lit.
Parce que ça, c'est l'histoire, en fait, d'un homme
qui
se lève, de quoi va être faite sa journée.
Exactement.
On a toutes ces considérations intérieures qui nous livrent comme ça.
Et ce qui est très particulier, c'est que dans ce texte de Georges Perec, c'est un jeune homme qui fait le choix de se retirer du monde. En tout cas, un stimuli qui lui dit d'arrêter de s'engager, d'arrêter d'aller à la fac, de ne pas passer ses concours, de ne pas aller au bout.
De se mettre à distance.
De se mettre à distance du reste du monde.
Et apparemment, ça, c'est un thème qui vous travaille beaucoup. Hein, on y reviendra peut-être. Vous savez quoi, j'ai envie de vous proposer quelques noms dont je sais qu'ils font partie de cette chambre intérieure, Ludmila. Et vous me dites simplement en quoi. Romain Gary.
La vie devant soi. Ce texte qui, moi, m'a toujours vraiment bouleversée, notamment parce qu'il se passe à Belleville. Moi, je suis une enfant de Belleville et que c'est la première fois que j'ai reconnu quelque chose qui revêt une atmosphère cosmopolitaine, qui est cette atmosphère où les odeurs se mêlent, les origines sont différentes et les gens cohabitent sans aucune... remise en question de ce qu'ils sont au fond. Et à l'intérieur de ça, un enfant qui regarde ce monde se déployer devant ses yeux avec à la fois une évidence de ce que ça représente et à la fois qui cherche à trouver sa place dans l'existence.
Jeanne Balibar.
Jeanne Balibar. C'est une actrice avec une singularité vocale, une multiplicité vocale en scène qui, moi, me surprend. On peut à la fois entendre en elle quelque chose d'une petite fille et en même temps entendre quelque chose qui a l'air de venir d'un autre temps. Et dedans, elle a l'air de s'amuser comme si c'était toujours la première fois. Et il y a cette chose que j'aimerais absolument retrouver un jour, mais qui est le « Tuer mon porc » qu'elle avait interprété sur la scène des Césars. Oui. Il y a, je ne sais plus combien d'années, mais j'avais trouvé ça incroyable.
Recherche désespérément « Tuer mon porc hein. ».«
Tuer mon porc
». Je lance un appel.
Mais je l'ai gardé en tête comme si c'était hier. Hein. Ça m'avait fasciné.
Peter Brook.
Peter Brook, dont la disparition, moi, m'a énormément ému. C'est l'un des metteurs en scène qui a toute sa vie imaginé que le plateau de théâtre était un plateau où toutes les identités pouvaient se représenter en étant à la fois une grande famille et sans qu'on se pose la question de qui est qui de manière identitaire.
Alors, même si, avec toutes les nuances qu'on peut y mettre, on peut dire que vous êtes d'un point de vue culturel dans un ancrage franco-français, c'est d'ailleurs votre formule à vous, peut-être, mais pas que.
Mam! Mam!
Je suis là, j'arrive. Et puis, ce n'est pas la peine de crier comme ça. Tu fais palpiter mon cœur, oui.
Je n'ai pas vu Binta.
Tu es partie en voyage il y a 3 jours, n'est-ce pas?
Je le sais.
Eh bien, il y a 3 jours que ta nièce sort sans autorisation.
Ah, tiens.
Et puis, il fallait l'entendre. C'est à cause de nous qu'elle ne réussit pas à l'école, dit-elle.
C'est pas vrai.
Et puis maintenant, si tu la vois, elle s'habille comme un garçon.
Ah bon?
Eh oui.
Il fallait la beauté, la cogner. Elle tombe par terre, tu marches dessus. Si tu avais fait ça, elle aurait compris.
Elle commence à me faire peur. Je vais la renvoyer à son père. Si ça continue, son petit musicien risque de la mettre enceinte.
Ça, c'est qu'il y a de mieux à faire.
Quoi? La foutre enceinte?
Non, la renvoyer. Je n'ai pas voulu en parler la première pour ne pas que ce soit mal interprété. Mais au fait, si tu la renvoies, la cuisine, qui est-ce qui va la faire?
Où l'on apprend qu'il y a aussi Belle Poussière de l'ivoirien Henri Duparc dans votre chambre intérieure, Ludmila Dabo. Pourquoi ce film?
Ça, c'est vraiment, c'est l'enfance aussi. Et c'est un rapport en l'enfance et à une vie d'Afrique qui vient se confronter aussi à une vie occidentale dans laquelle les femmes prennent leur liberté, prennent leur pouvoir.
Donc ça veut dire que toute petite, vous étiez attentive, vous étiez une goûteuse du cinéma africain, on va dire attentive ou dilettante?
Alors, dilettante, parce que c'est vraiment quelque chose qui dépend des parents. Et puis après, moi, c'est quelque chose que je partage avec mes amis, parce que c'est aussi une réalité qui m'accompagne.
Elle vous accompagne en famille, mais une question à la comédienne que vous êtes aujourd'hui et que vous êtes, qui était en devenir pendant des années. Est-ce que vous n'avez pas souffert de ne pas vous voir à l'écran, comme bon nombre de comédiennes françaises noires ?
Je dirais oui. Et en même temps, je dirais que y a un certain nombre de comédiennes qui ont aussi ouvert la voie.
Et, qui
bah, je pense par exemple à Firmin Richard, qui a été l'une de nos actrices qui est très importante quand même dans le cinéma français. Même si la question qui se pose encore aujourd'hui, qui est la question du déterminisme social au cinéma, qui continue à renforcer un imaginaire qui ferait de certaines populations qu'on considère immigrées des personnes pauvres, qui font des métiers subalternes.
On est encore dans cette fracture sociale, on va dire.
Tant qu'on sera toujours dans cette, tant qu'on sera toujours dans cet imaginaire et dans cette représentation aussi d'un cinéma social qui ne montre que les mêmes personnes, toujours dans une posture dévalorisante, il restera un pas à faire et des choses à marquer.
Papa sénégalais, maman camerounaise, vous pouvez chanter un cantique en bassa, on va voir ça. Mais être prioritairement, ça c'est la question, dans cet ancrage franco-français. Pourquoi cette priorité ?
Donc, mes parents se sont rencontrés sur les bancs de l'école à Dauphine. Ils étaient en fac déco ensemble. Et ils nous ont élevés en ne mettant pas au premier plan nos origines. Ils ne nous ont pas transmis leur langue de manière assidue et évidente. Mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Je pense que ce choc de culture...
Et vous ?
Et moi, je suis croyante aussi.
Mais vous êtes rattachée à quel...
Plutôt du côté de ma maman, mais ce qui est très drôle, c'est que je faisais la prière avec mon père quand j'étais petite. Hein. Je me mettais à côté de son tapis et faisais la prière. Moi, je disais n'importe quoi, je faisais... Mais je faisais la prière avec lui, j'étais convaincue de parler avec Dieu aussi.
Comme quoi.
Voilà, il y a quand même quelque chose qui s'est transmis de cet endroit-là. Mais surtout, ce qui était important pour eux, et ma mère me l'a redit dernièrement, parce que je lui ai dit, il y a quand même quelque part où je suis Bassa. Et elle me dit, non, tu n'es pas Bassa. Et je lui dis, tu es ce que tu as envie d'être. Et nous, on vous a donné ce qu'on pouvait vous donner en vous laissant les possibles aussi, les ouvertures. On ne vous a pas obligé à être croyante. On ne vous a pas obligé à épouser nos origines et nos traditions. On s'est rencontrés dans un endroit qui était un endroit totalement laïque. Donc, on fait avec ça. Mais effectivement, ce que nous avons pu nous donner, et c'est vrai qu'il y avait des soirées, et que moi j'ai toujours connu des soirées quand mon père était encore là, où on avait beaucoup de musiciens sénégalais qui venaient et qui jouaient à la maison. Donc on entendait le Wolof tout le temps à la maison. On entendait le Bassa avec mes oncles, avec mes tantes à la maison aussi. Ils ont toujours imaginé qu'on avait une multiplicité de possibles à notre disposition et que du coup ils n'avaient pas envie de nous restreindre à leurs propres origines uniquement.
La preuve que vous êtes aussi Bassa, ce petit cantique en bassa, pour un sol majeur, est-ce que c'est possible ?
C'est possible. Menti ni nye minyou yon Ome kop ki ma chel mem Le me metol bu won Menyi nye swenyi nyep nyem Menti ni nye minyou yon Manwem diwe unti ki nyu yem. Menti ni nye mi nyu yon. Manwem diwe unti ki nyu yem. Dapta ta hi ma pu. Pi nye yem nye li li pem. Menye nye k maham nan yon. Gi men ko. Tol bok ben menyek mame minyu yom manwem diwe unye ki nyunye menyek mame minyu yom manwem diwe unti ki nyunye.
Oh, ça vous fait pleurer.
C'est un peu particulier. Ça, c'est l'enfance. Pour moi, c'est profondément la transmission maternelle, ça. Je sais qu'il ne me restera que ça quand ma maman disparaîtra. Et ça me fait toujours quelque chose quand on me demande de livrer cette intimité, cet endroit qui est tellement secret.
Très touchée alors que vous le partagiez avec la grande famille en sol majeur.
Tea.
Thé comme théâtre de l'enfance.
Comment cette idée de faire du théâtre s'est inscrite en vous, Ludmila Dabo? C'est une question que je pourrais approfondir en me rapprochant d'Anaïs Nin, qui disait qu'elle écrivait parce qu'elle ne pouvait vivre dans aucun des mondes qui lui étaient offerts. Oui. À l'époque, c'était le monde de ses parents, oui, celui de la guerre et celui de la politique. Est-ce que ce goût du théâtre a une motivation similaire chez vous?
Ça, je peux dire que oui, puisque... Alors... Après le lycée, je pensais absolument pas que je ferais du théâtre mon métier. Je pensais pas du tout que je deviendrais comédienne, je pensais pas que je travaillerais même et que je vivrais de ce métier. J'ai toujours imaginé que le théâtre, pour moi, c'était un endroit de communion avec des esprits qui ont envie d'imaginer le monde un peu autrement. D'imaginer que le plateau est un lieu de transformation du réel pour... chercher ce qu'il y a encore de rêve, d'humanisme, de solidarité qui peut en être constitué.
Quelque chose de la tablée familiale.
Absolument. Mais en même temps, cette idée de la grande famille du théâtre, déjà la réalité nous oui, permet de nous rendre compte qu'elle n'est pas si effective.
Parce que comme l'heure tourne, je vais quand même arriver à l'heure où vous entrez au CONS. Donc ouais, ça c'est le sésame absolu, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Quelle expérience en tant qu'apprentie comédienne vous y avez vécue?
J'y ai découvert déjà que je n'avais pas envie d'être uniquement comédienne, mais que j'avais aussi envie de sortir du plateau pour l'observer autrement, pour prendre part à des réflexions et les développer en tant que metteuse en scène, et pourquoi pas écrire aussi. Mais c'est vrai que... c'est poser la question de je pensais pas que en sortant du conservatoire je travaillerais. J'avais vraiment l'impression que c'était toujours les mêmes à qui on donnait une place plus conséquente sur les plateaux et même au conservatoire, et qui avaient toujours un imaginaire de l'ordre de l'emploi qui pouvait exister. Donc celle qui est un peu plus ronde, qui va faire la suivante, la plus menue, blonde aux yeux bleus, qui allait toujours être un peu la jeune première.
Donc vous n'avez jamais été distribué dans la jeune première?
Non, mais en réalité, il se trouve que finalement, même s'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui demeurait encore, c'était pas la question. Parce que j'y ai quand même créé un spectacle autour de la figure de Nina Simone et j'ai eu toute la liberté de le faire. J'ai créé aussi un autre spectacle où j'étais élève metteur en scène, un texte d'Odon von Horvath.
Donc c'était quoi la question alors qui posait problème?
Et la question qui posait problème, c'est: allons-nous trouver notre place dans ce métier? Certains artistes avec lesquels on a travaillé nous disaient « oui, c'est possible ». Et puis, tout se passe de manière inconsciente et de manière non dite, et je pense dans un inconscient collectif aussi, il y a toujours un endroit où on reproduit quelque chose qui serait censé être de l'ordre de l'usuel.
Mais il y a quelque chose qui me dit que vous échappez, et c'est une bonne nouvelle, à cet inconscient dont vous parlez, Ludmila Dabo. Il y a un nom important dans votre parcours, c'est celui de David Lescaut. J'ai l'impression que vous êtes un peu une de ces mascottes, comédiennes mascottes comme ça. Donc Lescaut, auteur contemporain qui a travaillé sur l'hier et l'aujourd'hui, sur le passé, la grande histoire, ou encore sur les enjeux de société d'aujourd'hui. Quelle est votre relation au théâtre par rapport au présent? C'est la question à laquelle il répond au micro de France Inter.
Je suis à l'écoute du présent, enfin je laisse encore une fois mes yeux, mes oreilles. C'est une espèce d'imagination observante en fait, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'observer, mais il faut imaginer en observant et observer en imaginant. C'est une corrélation entre les deux qui fait que tout à coup l'idée d'une pièce ou le besoin ou la nécessité d'écrire sur cette chose-là arrive. C'est pas que je me sente investi d'une mission de
chroniqueur. Pour y avoir envie de documenter par exemple.
Oui, mais documenter ça me plaît bien, ouais. J'aimerais bien que les pièces deviennent des documents du présent pour le futur. Mais dans le meilleur des cas, c'est ce que ça devient. C'est pour ça que, c'est bête d'opposer fiction et documentaire. Chaque chose est à la fois fictionnelle et documentaire, et puis l'aiguille penche d'un côté ou penche de l'autre. Mais je ne sais pas, une pièce de Corneille, c'est de la fiction, mais pour nous, c'est un document. C'est un document sur la manière dont les gens vivaient, pensaient, parlaient. Et c'est un document poétique, en fait, de ce temps qu'on a besoin de ramener à nous, parce qu'il nous parle à la fois du passé et qu'il nous parle du présent, qui nous permet de les comparer. Voilà, c'est ce rapport-là, en fait.
J'imagine, Ludmila, que vous reconnaissez le style de David Lescaut et sa fameuse imagination observante. Alors, il a écrit pour vous « Une femme se déplace », prix de la meilleure comédienne de l'année du syndicat de la critique, c'était en 2019, je crois. Et puis, plus récemment, « Portrait de Ludmilla en Nina Simone ». Comment cette idée lui est venue ?
En fait, c'est une idée qui vient de la Comédie de Caen. La Comédie de Caen a créé ces spectacles un peu impromptus qui sont des portraits de personnalités connues ou non, autour desquelles un artiste associé a envie de raconter quelque chose. Ce spectacle est arrivé au moment où se développait aussi à la Comédie de Caen une pièce de James Baldwin, Harlem Quartet, dans laquelle je jouais également. Et initialement, c'est Élise Vigier qui avait le désir d'avoir un portrait autour du pendant féminin de James Baldwin, qui était Nina Simone, qui était une de ses grandes amies très intimes de James.
Mais et pourquoi portrait de Ludmilla en Nina ?
C'est pour ça que je vais y venir. Ce portrait démarre entre David et moi comme une interview. Lui ne connaissait pas grand-chose de Nina Simone. Et moi, en revanche, lui disais que j'avais une intimité très forte avec cet artiste. Et petit à petit, David se rend compte qu'il y a une corrélation possible entre elle et moi, qui est, sommes-nous dépendants de ce qu'on a décidé que nous devons être, ou pas.
Un jour, j'ai 11 ans. Je donne un récital à l'hôtel de ville. Mes parents sont assis au premier rang, alors on leur demande de céder leur place à d'autres gens, des blancs que je ne connais pas. Alors ils obéissent sans protester. Alors je me lève dans ma robe de gala et je dis « Si vous voulez m'entendre jouer, il y a intérêt à ce que mes parents soient assis au premier rang !» Alors on leur redonne leur place. Alors eux, ils sont gênés. Et alors, moi? Birds flagging high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. New York. 1950, études à la Juilliard School pour préparer le concours du Curtis Institute of Music de Philadelphie. Devenir la première pianiste classique noire de l'histoire de la musique. Et la vie à Harlem. Les cours de piano classique de l'éminent Dr. Friedberg. La famille qui quitte Tryon pour s'installer à Philadelphie en prévision de ma future carrière. Et le concours qui se déroule comme il faut. Pas de panique, pas de tremblement, pas d'accident. L'attente des résultats du concours du Curtis Institute of Music de Philadelphie. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And
none
I'm feeling
means.
Good.
None
I'm
means.
Feeling good.
No, that means.
I'm feeling good.
No, that means.
Jubilation en sol majeur, à vous voir et à vous écouter en Nina Simone, Ludmilla Dabo. Ludmilla avec deux L hein, d'ailleurs.
Tout à fait.
Pour quelle raison ?
Je ne sais pas.
D'accord, c'est partie des petits mystères, ouais. Il ne faut surtout pas déflorer. Quelle est la frontière finalement entre vous et Nina Simone, entre la comédienne Ludmilla et le personnage Ludmilla ? Vous avez deux heures.
Waouh ! La Ludmilla de ce spectacle interroge cet empêchement qui a été un empêchement qui a jalonné son existence de Nina Simone, qui n'a pas pu être pianiste concertiste, qui ne se prédestinait pas à devenir une chanteuse, à une Ludmilla qui a questionné ce que c'est qu'être en représentation restreinte dans une institution nationale reconnue et à rayonnement international aussi. Et donc de se dire où est ma place et est-ce que j'ai la force de lutter et d'avancer, toujours en me disant que ma place, c'est à moi de la faire et de ne pas attendre qu'on me la donne.
Parce qu'en même temps, vous avez l'air d'être un peu l'exception dans le ciel de la diversité à la française, pour employer tous les gros mots.
gros mots durs.
Voilà, vous avez l'air d'échapper, je le dis avec un sourire, à cette assignation de militantisme parce que comédienne noire. Parce qu'en fait, ce que vous donnez à voir, c'est une artiste capable de tout jouer, de jouer une paysanne russe ou une veuve élisabéthaine. Est-ce que c'est ce que vous vivez vraiment ou est-ce qu'il y a un combat en sourdine que vous menez ?
Je crois que ce combat, je le mène avec des metteurs en scène aussi qui ont envie qu'on le mène. Et je crois que ce combat, j'ai envie de le mener aussi en tant que metteuse en scène, dans ma manière de travailler une distribution qui est très éclectique. Ce qu'on veut, c'est travailler avec des acteurs. On ne cherche pas à travailler avec des acteurs d'origine. Et à la fois, on est toujours fiers de dire de quelles origines sont nos parents, mais à la fois, on ne veut pas être déterminé uniquement par ça. On a envie de pouvoir raconter des histoires qui sont des histoires qui appartiennent à tous les territoires et dans lesquelles tout le monde peut se revendiquer appartenir.
En tout cas, vous n'êtes pas là où on vous attend. Très souvent, Ludmila Dabo, la preuve avec My Body is a Cage, qui a été joué à Paris l'an dernier. Le pitch, rapidement.
Le pitch, une maîtresse de cérémonie qui invite un public à rentrer dans un cabaret qui ne tournera qu'autour de la fatigue. Et ce public va entendre résonner l'histoire ou les différentes réflexions autour de la fatigue avec une espèce d'explosion d'abord de joie, quelque chose d'extrêmement extraverti et de presque trop à recevoir et à entendre, jusqu'à n'avoir qu'une seule envie, c'est se retirer dans un endroit très secret pour pouvoir dire « je suis fatiguée ».
Et à 38 minutes de My Body is a Cage, après une insurrection très joyeuse contre le fardeau du quotidien, dans un look limite drag queen, grande choucroute sur la tête et paillettes, dans une ambiance, vous l'avez dit, très cabaret, épuisée, ou alors renversée sur votre chaise, Ludmila, votre corps parle.
Est-ce que tout va bien de votre côté ? Ça va ? Vous êtes avec nous, vous nous suivez ? Vous continuez à nous suivre ? Ah ! On vous l'a peut-être pas encore demandé, de cette manière en tout cas, mais comment vous sentez-vous ? Êtes-vous bien là, avec nous ? Êtes-vous confortablement installé ? Ah, vos sièges sont-ils agréables ? Sensation de fraîcheur ? Petite chaleur, pas déplaisante ? La température ambiante est-elle à votre convenance ? Acceptez-vous ? D'aller plus loin avec nous ? Acceptez-vous de passer un cap supplémentaire ? Acceptez-vous de nous inviter dans votre intérieur ? Plutôt à l'intérieur de vos sensations ? De celles qui peuvent vous prendre lorsque vous subissez une crise d'épuisement ?
Une crise d'épuisement avec cinq femmes qui transpirent beaucoup, épuisées dans ce spectacle. Cinq femmes, c'est pas un hasard ?
Non, 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 c'est pas un hasard. J'ai beaucoup entendu parler de cette question de la charge mentale, évidemment. Et également la question du plafond de verre, de pouvoir se sentir légitime et libre de pouvoir exprimer et trouver sa place dans la société en tant que femme. C'est vrai que c'est un endroit qui m'a questionnée aussi et dans lequel j'ai invité cinq actrices à l'évoquer avec moi. C'est aussi la question de se dire, c'est souvent beaucoup dans une intimité féminine qu'on se parle des fragilités. Et qu'est-ce que c'est que de pouvoir la traverser aussi en groupe, collectivement, et inviter les hommes aussi à l'entendre comme quelque chose qui les concerne, comme quelque chose qui nous a trait à tous.
Mais j'ai envie de vous taquiner quand même, Ludmila, parce que si je résume notre monde actuel, on a des risques climatiques monstrueux, on a une guerre aux portes de l'Europe, on a des migrants sur nos rivages, on a une guerre en RDC, la montée des populismes dans le monde, et vous êtes tourmentée par nos problèmes de sommeil.
Non, je... enfin, oui, mais je crois que, justement, Tout ça contribue aussi à cet épuisement collectif dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'on a tellement conscience aussi du monde dans lequel on est. Et je pense que la question d'être une mère qui doit continuer à donner de l'espoir à ses enfants, être une mère qui travaille, être une mère qui essaye de transmettre des valeurs, être une femme qui a envie d'exister en tant que femme aussi.
C'est un spectacle Me Too, vous diriez ?
Non, j'aurais du mal à dire ça. Je pense plutôt que ce que je veux dire dans ce spectacle et ce que je veux qu'on entende, c'est le droit à pouvoir exprimer ces fragilités qui nous viennent d'une multiplicité de contextes et de situations qui nous affaiblissent et qui font qu'aujourd'hui, tout le monde manque de repères. Et on sent que l'étau se resserre de plus en plus économiquement, socialement, d'un point de vue identitaire aussi.
Et d'un point de vue qui concerne notre psyché.
Exactement.
Moralité en sol majeur, pas forcément de multiples cultures au pays de Ludmila Dabo, mais en tout cas de multiples casquettes. Chanteuse, comédienne, metteuse en scène, autrice, je suis sûre que la liste n'est pas finie, n'est pas exhaustive. C'est crucial pour vous, ce côté du multiple.
Oui, parce que je me suis toujours dit que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les formes de théâtre total. Donc des formes antiques dans lesquelles la musique, la danse, la déclamation prennent leur place à l'intérieur d'une forme spectaculaire. Donc c'est vrai que je me suis toujours dit que tout ça venait vraiment comme renforcer un engagement, une lecture d'un texte. Et puis je me suis toujours dit aussi que quand les mots nous manquent, quand on n'a plus les mots, quand on ne peut plus parler, c'est là que la musique, c'est là que le corps trouve un exutoire et trouve à exprimer autrement. Et que ça n'est que pour renforcer et pour développer les possibles d'une réflexion, les possibles d'une pensée, les possibles d'un engagement qu'on veut avoir.
Je vous laisse repartir dans votre quartier parisien chéri, Belleville, en sifflotant peut-être Summertime, version Ella Fitzgerald. Merci Ludmila Dabo.
Merci infiniment Yasmine.
Et bon vent.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby. Mama.
Au générique de cet en sol majeur, quelques paillettes et plumes dans le turlututu, un petit peu de Anaïs Nin et de Nina Simone façon Ludmila Dabo. Un en sol majeur à retrouver en podcast ou sur notre site rfi.fr. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on va remettre nos lunettes de liseuse demain pour accueillir Laura Alcoba. À demain.